Bonjour et bienvenue dans la bande originale Le Meilleur avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Guillermo Guiz et au programme aujourd'hui Karine Viard, Philippe Robot, la bande originale de Jules et les lives de De Palmas et Dawali, Le Meilleur de la bande originale. C'est parti, c'est maintenant. Oui, on vous reconnaît. Merci d'être là, Karine. On est ravis de vous accueillir. Merci. Malgré l'agression que vous avez subie, vu les vêtements déchirés. Et Philippe Robot, messieurs, dames, qui arrive.
Bonjour.
Installez-vous, Philippe. Vous êtes tous les deux à l'affiche du Petit Locataire, le premier film de Nadège Loiseau, un film que nous avons adoré. Ouais. J'espère que vous avez bien compris, Père Albert, pourquoi Karine et Philippe sont nos invités.
Absolument. Tout d'abord parce que Karine Viard, bonjour Karine.
Bonjour.
Et Philippe Rebaud qui vient d'arriver, bonjour Philippe.
Bonjour.
Sont des comédiens extrêmement sympathiques, des personnes dont vous m'avez dit tout à l'heure, Nagui, tu vas voir, ils sont un peu moins narcissiques que la plupart des cabots qu'on reçoit par dizaines, et ça devrait rendre l'émission supportable. C'est ce que m'a dit Nagui tout à l'heure. Ensuite, nous avons invité Karine et Philippe, car ils incarnent les personnages d'un film drôle et touchant, aussi original qu'édifiant, Le Petit Locataire. Un film dont je vais, je le pense, faire de façon subtile le pitch.
Le quoi?
Le pitch.
Ah oui, bien. Le pitch.
Nicole, à l'aube de ses 50 ans, découvre qu'elle a un polichinelle dans le tiroir. Ce qui va bouleverser la vie quotidienne de sa famille, des petits-enfants jusqu'à la grand-mère, alias Mamilette. C'est joli ça. Car s'il est vrai que les femmes mettent aujourd'hui des enfants beaucoup plus tard que jadis, la fertilité s'amenuise hélas à mesure que les réserves ovariennes diminuent. Et vers la cinquantaine, les ovules se font aussi rares dans les ovaires que les cheveux sur le crâne ovoïde d'Alain Juppé. Bien que dans ce film, Nicole, malgré son âge, incertain, reste une créature qui aspire aux vices ardentes de galipettes. Eh bien, malgré cela, j'ai surtout perçu le petit locataire comme un plaidoyer en faveur de la maternité à tout prix. Mais attention, pas au prix d'une fornication qui tient plus de la bestialité que de l'acte de procréation souhaité par Dieu, notre Seigneur et Berger. Pour une maternité fruit de l'union d'un papa et d'une maman. Union dont je rappelle, il me semble qu'elle devrait s'accomplir dans l'obscurité la plus totale, sous les draps, dans la position du missionnaire, et grâce à des ouvertures, comme celle pratiquée dans le pull de Karine ce matin, ménagée dans la chemise de nuit, à la hauteur des parties honteuses du papa et de la boîte à ouvrage de la maman, afin que 9 mois plus tard, un nouvel agneau vienne grossir le troupeau de nos brebis en recherche qui broute les verts pâturages de l'espérance. Oh. En revanche, il n'est pas question... Karine, écoutez-moi encore, que l'épouse qui sommeille toujours une femelle voluptueuse, une boule de vis, pour réveiller la lubricité de son époux, profite d'une lumière tamisée pour mettre en valeur les appâts rebondis dont la nature l'a doté en les moulant dans des dessous aussi friolants que tentateurs, tout en prenant des postures qui sont un défi à la décence. Tout ça me dégoûte. Ah, oh, j'ai changé de soutane. Mais revenons au petit locataire, votre film, Karine et Philippe, oui. En exaltant d'une certaine façon la maternité hors d'âge, votre film va plus loin encore que la dure lutte menée au cri sacré d'un papa, une maman, un papa. Oui, grâce à votre film, désormais, dans nos manifestations, nous crierons à plein poumon « Un pépé, une mémé, un pépé, une mémé !» Voilà, bonne émission.
Merci, Bernard.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Comment résumer ce film à part dire le test est positif? Point. Voilà, c'est le point de démarrage.
Cette scène est géniale. Non.
Le test est positif et ça vient tout chambouler dans votre famille parce que oui, vous arrivez à un âge où vous ne vous attendiez pas à faire un enfant. Vous retrouvez Philippe et Karine, papa et maman. J'ose plus, mais on peut plus dire papa,
c'est
maman.
Vrai,
maman.
Mais on s'attendait c'est, pas.
C'est
à beau. Ça.
On s'attend pas à ça.
Une maman, faut le dire.
Et vous êtes déjà maman. En plus, vous êtes déjà maman de votre maman,
ah, mais ça
maman donne
des vannes.
De vos deux enfants, maman de votre petite fille. Donc
oui, tout à fait. Oui. Tout le monde vit ensemble. On vit un peu aggloméré les uns avec les autres, et cette naissance qui s'annonce, et qui s'annonce plutôt avec fracas, de façon un peu catastrophique, mon mari, Pépé, Philippe Rebaud, ici présent, n'en veut pas du tout, et évidemment, cet enfant qui s'annonce, c'est le grain de sable qui va enrayer la machine, donc c'est l'occasion pour tout le monde, en fait, de s'exprimer là-dessus, de s'autonomiser les uns par rapport aux autres, et c'est l'occasion de rentrer au cœur de cette famille dysfonctionnelle, folklore, très sympathique, ouais, qui se balance, ouais, quand même des bons trucs. Mais je trouve que la réalisatrice a réussi cette chose très gracieuse de dire tout ça avec énormément de tendresse, sans mièvrerie, et beaucoup d'amour, en fait. Et du coup, c'est un film qui balance pas mal, du coup, qui est drôle, qui peut être assez féroce parfois dans les relations, mais qui est quand même nimbé de beaucoup de gentillesse, de beaucoup de bienveillance. Et j'ai l'impression que c'est ça qui lui donne son caractère assez gracieux.
Et il y a tout, absolument. Et il y a tout. Il y a les relations dans la famille, il y a le regard des autres, il y a le rapport mère-fille, il y a le rapport dans le couple aussi.
Bien sûr, mère-fille à plusieurs générations. C'est-à-dire moi, ouais, avec ma mère, moi avec ma fille avec sa propre fille. Le rapport de couple avec cet énergumène, Philippe Rebaud, voilà, c'est une très très beau gosse, avec mais qui ne branle rien depuis 2 ans.
C'est ça, qu'est depuis 2 ans, il y a la vanne que tous les mecs ont dû s'entendre dire, c'est j'ai mal au dos, j'arrive plus à ramasser, ouais, mes chaussettes, ouais, et votre femme vous répond, ouais, je te rassure, tu n'as jamais ramassé tes chaussettes.
Dans ma vraie vie, moi c'est le contraire, c'est vrai.
Et en même temps, pour sauver le personnage de Philippe, c'est un homme qui décide de pas grand chose, il ne fait pas grand chose, ça c'est vrai, et en même temps...
Il pas d'accord, laisse-le répondre, il n'est pas d'accord.
Ah bon ?
Non, parce que moi, bien sûr, ça revient régulièrement qu'on dit...
J'allais vous défendre.
Bah, d'accord, je vous laisserai finir. Mais en réalité, on ne filme pas tout ce qu'il fait.
Ah oui, bah oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même entraîneur. Bon, alors, on ne filme pas toutes ses séances d'entraînement, tout ce que ça demande comme préparation. Il emmène des gamines au championnat de France, ça n'est pas rien.
Non,
mais on a décidé
rien.
De ne pas le filmer.
Ce n'est pas rien, Philippe.
Voilà, il ne gagne pas d'argent, mais il en a bas.
Quand le personnage de Karine est arrêté, ou en tout cas doit ralentir la cadence à la maison, il se rend compte que tout d'un coup, la femme qu'il a à la maison, eh ben, elle travaille, elle s'occupe de sa fille, de sa mère, de sa petite fille, elle fait les courses, elle s'occupe de tout. D'ailleurs, la maison est un chantier quand elle revient, la pauvre, c'est de l'hôpital. Vrai. Et en même temps, le personnage de Karine est assez, pas castrateur, mais finalement, quoi qu'il fasse, ça va pas vraiment.
Ah, mais c'est ça que je trouve assez juste, ouais, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait pas grand-chose, mais le problème, c'est que elle voudrait qu'il fasse des choses, mais exactement comme elle les fait.
Voilà.
Donc, c'est toujours pareil. Hein. Donc, elle souffre de n'être pas assez soutenue, mais vu qu'elle n'est pas prête à lâcher un certain nombre de trucs, lui ne trouve pas sa place non plus. Donc, ça l'arrange de ne pas la trouver.
Et puis, c'est une galerie de portraits aussi des femmes d'aujourd'hui, à tous les âges, toutes les générations, le regard qu'on peut avoir sur elles, le regard qu'elles ont aussi sur elles-mêmes.
Oui, mais c'est, en plus, ça se passe dans un petit milieu, c'est-à-dire un milieu où c'est la galère, un milieu où les gosses partent pas à 18 ans dans un studio faire des études, c'est tout le monde vit ensemble dans les mêmes chambres aussi
parce qu'on n'a pas les moyens d'eux,
donc cette promiscuité induit l'idée aussi que en dehors de la famille, point de salut, mais en même temps, il y a la nécessité de s'autonomiser. Donc c'est à cette croisée des chemins que toute cette famille se retrouve.
Non, mais les femmes sont très présentes, c'est elles un peu l'étolière dans le film.
Oui, 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 puis il y a 4 génération, il y a ma mère, Hélène Vincent,
pardon,
moi,
Philippe, parce
ma
que les gars sont d'accord.
Ça les arrange ?
Ouais. Non, ils sont d'accord pour les laisser tôlières.
Oui, oui, je veux dire, ça les arrange, les tôlières.
Ouais, ouais, c'est
oui,
ça.
Ben oui, oui.
Non, mais même, c'est même sympa de dire, bah, tu veux la place de tôlière, je te la laisse. Non, mais c'est vrai, c'est un renversement de société.
Sauf qu'il y a un moment où elle se dit, moi, je vais être enceinte pendant 9 mois, donc je vais pas pouvoir m'occuper de ça, il va falloir que vous occupiez de la maison. Ça fait 35 ans que je m'occupe de la maison, maintenant, vous pouvez bien travailler 9 mois.
Ouais. Et ça, c'est plus compliqué. Quand tu dis, il est sympa de laisser la place. Oui, mais enfin, il a quand même. Tu donnes des lettres de noblesse à la lâcheté, chérie.
Non, mais pas du tout.
Tu le sais, tu en es quand même conscient.
Non, je pense qu'il est. Il a une virilité discrète, c'est-à-dire justement en assumant cette place de second couteau de la famille.
On refait le film. J'adore.
Non, mais c'est que Philippe, il est trop dans le rôle, en fait.
Et Karine, il est...
Non, je le prolonge, je suis pas trop dans le rôle. Il y a quand même derrière un inconscient du truc.
Faites gaffe, on va finir par croire que c'est un documentaire pour vous. Faites attention.
C'est pas si loin, mais sauf que le vrai documentaire n'est pas du tout ça. Je veux bien qu'on vienne me filmer.
Je témoigne, c'est vrai. C'est vrai. C'est un homme super bien de ses gosses, il est debout, tout ça.
Non, c'était une vanne, il ne faut pas l'alimenter. C'est très gênant. Regardez, j'ai la photo de mes enfants, monsieur.
Je veux le dire à la France. Parce que c'est vrai qu'il est très très crédible dans ce rôle, il est merveilleux.
Ah, mais vous êtes tous parfaits à tous les niveaux.
Le casting est génial. Antoine Bertrand qui joue le Québécois, il est absolument fabuleux.
Alors oui, Québécois ambulancier.
Ambulancier.
Et il y a des vannes, c'est-à-dire qu'il déclare sa flamme. Il y a une scène où il fait une déclaration d'amour. On ne dira pas à qui, on ne dira pas comment, on ne dira pas pourquoi. Mais elle est tellement juste, tellement bien jouée,
ouais.
Que pendant 2 secondes, j'ai dit non, il y a un twist dans le film, là, ils sont en train de m'embarquer dans une autre histoire, et on se fait avoir. Non, c'est vraiment bien.
Oui, parce que ce qui est réussi aussi, c'est que c'est un film avec des personnes. Enfin, il y a une figure centrale, on pourrait dire, c'est moi,
bah oui, quand
le
même.
Couple. Et puis après, il y a toute
Vincent,
la famille, les amis, etc. Et aucun des personnages n'est abandonné. Et ça, j'aime beaucoup ça. Ce qui fait que ça fait une galerie.
Chacun sa place.
Ouais. Chacun sa place, chacun son histoire.
Alors justement, là, il a fini son casting parce que je viens de citer Hélène Vincent, formidable.
Qui est géniale. Stella Fenouillet, cette petite fille, c'est incroyable. Ouais. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est une claque.
De la famille Fenouillet. Elle vient de chez ses parents.
C'est une actrice. Elle a 7 ans, mais c'est une actrice.
D'une justesse. Très clairement.
Ouais. Et Manon Knezé, c'est ça, aussi, qui incarne votre fille, Axel, dans le film. Il y a vraiment... aucune erreur au casting.
Je suis d'accord.
Non, c'est vrai.
Je
ne
vais pas vous contredire.
Initialement, vous deviez jouer un autre rôle, Philippe Robaud. Lequel était-ce ?
C'était celui de mon assistante. Enfin, de l'assistant. Maintenant, qui est une assistante. Une assistante moustachue.
D'accord.
Mais ça, je ne le savais pas.
Et c'est Karine.
C'est moche. Hein. Moi, je croyais que ça avait été un truc.
Et c'est Karine Viard qui a suggéré votre.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait ce couple comme ça. Et moi, j'ai dit à la réalisatrice, à qui tu as pensé pour mon mari ? Elle me dit, j'ai un nom, tout ça. Et je dis, parce que moi, je pense à Philippe Rebaud, je pense qu'il serait bien. Et ça lui a semblé très évident.
Alors, vous connaissiez comment et d'où, tous les deux ?
Alors, on a déjà fait deux films. On avait fait Lulu, femme nue, de Solveig Anspach. Et aussi 21 nuits avec Patty, des frères Larieux. Donc, on se connaît depuis quelques années. Ouais. C'est le mari d'une consoeur, donc je le connaissais aussi par ce biais-là.
Oui. Et voilà, on a fait aussi Weekend, petite scène.
Ah oui, c'est vrai, Weekend de Anne Vilasek. On avait une scène ensemble. Donc voilà, notre chemin était... On s'est tenu la main plusieurs fois. Et puis là, j'avais vraiment envie qu'il me plotte les nichons. Je me suis dit, je crois que maintenant, on est mûrs pour ça.
On est prêts.
Bien, Philippe, il a dit tout à fait d'accord.
J'ai eu un peu peur, mais j'ai dit ouais.
Faut pas hésiter dans ces cas-là. Non, faut pas hésiter.
Je sais pas, j'ai un peu peur des femmes, donc du coup, c'est nichon aussi.
Lorsqu'on vous a annoncé, Leïla, la venue de Philippe Rebaud et Karine Viard, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, et immédiatement, Karine, quand je pense à vous, je ris et je revois une scène tordante. C'était ici, dans ce studio, et vraisemblablement, vous ne saviez pas, Karine, lors de votre dernière venue,
que lorsque
la lumière est rouge, et bien quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est à l'antenne, on est en direct, on écoute.
Elle a une chatte de 74 ans, je pense.
Enfin,
je dois m'expliquer qu'un chroniqueur avait fait un papier comme quoi, dès que t'as je sais pas quel âge, t'es carrément au rebut, quoi. T'es une vieille, t'as la chatte qui tombe par terre et tout ça.
C'était vous.
Et donc, après Blondie, j'adore Blondie, et je dis, Blondie, elle a une chatte de 74 ans quand même. Donc voilà, c'était pour répondre à ça, mais c'est vrai que j'aurais dû me la fermer.
C'est un moment délicat.
C'est le moment le plus drôle en trois années de bande originale. Je crois que c'est notre préféré.
Et en deux émissions, vous avez dit que deux fois, elle avait une chatte de 75 ans.
C'est pas mal aussi.
Le moment de solitude, quand même, c'est que j'ai envoyé cet extrait par mail à Karine Viard et elle ne m'a jamais répondu. Que je me suis senti encore plus dégueu, si tu veux, d'envoyer le mail. Avec.
Ah, je ne l'ai pas reçu.
Si, je voulais envoyer. Non, mais c'est pas grave.
C'était dans les spams.
Ça doit être dans les spams.
Et quand je pense à vous, Philippe, je vous revois dans un film, un road movie complètement dingue, et j'ai vu en vous un acteur burlesque et mélancolique à la fois. Ce film, c'est Mariage à Mendoza d'Edouard Deluc, c'est avec vrai. Vous Nicolas Duvauchel, une participation de Benjamin Biolay. Vous avez même participé à l'écriture du scénario, mais c'était vraiment génial. C'est un film de fou, et en fait, en voyant ce film, quand je pense à vous, je pense au film des années 70.
Mais pourquoi tu t'en fous du fric ? T'es bien qu'une petite pute ! C'est à cause du fric que t'es venu me chercher ! Non ! C'est ça que tu voulais, non ? C'est ça qui t'excite, non ? Mais dis-le ! Dis-le qu'il n'y a que ça qui t'excite ! C'est quand même pas moi ! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi ?
Ouais, c'est dans Série Noire.
Connard !
C'est un extrait de Série Noire d'Alain Corneau avec Patrick Devers.
Avec le patron.
Je crois que c'est le film que vous avez le plus vu.
Ah oui, je pense que je l'ai vu 10 000 fois. Je sais pas combien de fois je l'ai vu.
Ouais.
Je ne sais pas, mais je les ai tous vus un bon paquet de fois.
Et je vous imagine tellement facilement dans ce genre de film des années 70, en fait. Comme si vous étiez un acteur anachronique.
Non, mais faire une carrière en arrière.
Mais non.
Je suis d'accord. Il faut. Voilà, ok.
Mais ça vous va super bien.
C'est ma culture,
aussi.
C'est tout. Ouais. C'est pour ça, je pense que j'ai un côté années 70, mais je le revendique.
Non, mais carrément.
C'est un old-timer.
Tout est années 70, d'ailleurs. Son corps est années 70.
Son salaire est années 70.
Son salaire est années 70. Sa dentition, très années 70.
Ma dentition de cheval, comme dit mon fils. Non, mais
ce qui fait de vous un acteur.
J'en viens là en plus.
Il y a des slips oranges.
Il est en train de faire des Scooby-Doo là.
Non, mais c'est un compliment dans ma bouche.
Je l'ai pris comme ça.
Ce qui fait de vous un acteur, je trouve, totalement burlesque, hors cadre, mélancolique aussi à la fois. Et moi, j'ai envie de vous voir davantage, en fait, dans le film.
Mais échangez vos 06.
Non, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout la question.
Elle fait ça tous les jours. Et avec Romain Duris aujourd'hui, avec Philippe Rameau.
Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Merci, Karine. D'accord avec vous.
Je suis entièrement d'accord.
Non, mais parce qu'il a une façon de jouer, Philippe, qui est, ou de, d'être, d'occuper l'espace, d'être dans l'écran, avec une vérité qui est, que peu d'acteurs ont, je trouve. Alors peut-être parce qu'il est rentré comme ça, par la petite porte.
Enfin, pardon, cette vérité-là, ça s'appelle pas être un bon acteur, point. Je ne comprends pas la vérité d'occuper l'espace pour un comédien.
C'est-à-dire, t'es acteur, quand tu veux être acteur, que tu fais des études pour être acteur, etc., tu peux être un bon acteur. Philippe, il a commencé, il a écrit, scénariste, il a travaillé à la régie, et puis on l'a pris parce qu'on l'a trouvé plein de charme et un personnage comme ça. Donc il est arrivé acteur un peu par une autre porte.
D'accord.
Donc c'est difficile de se sentir acteur quand on arrive comme ça, d'être dans cette forme de légitimité.
Mais enfin, vous sentez pas usurpateur de...
Ah, si, je me sens gravement usurpateur, mais globalement, sur l'ensemble de ma vie, je me sens usurpateur. Mais après, on est juste des ados.
C'est un signe, hein, vous arrivez en retard sur France Inter.
Ouais, c'est ça, ouais,
c'est un signe de melon.
C'est pas à côté. Mais du coup, oui, bien sûr, je suis un imposteur. Et après, la vérité, elle tient du fait que je ne joue pas, je fais ce qu'on me dit de faire. Et voilà, c'est ça le...
Oui, dans Rosalie Bloom, dans Hippocrate, tout ça, à chaque fois, vous avez
on met des costumes souvent ridicules, et on me dit, bah, vas-y, maintenant, et j'y vais.
Démerde-toi avec ça, et ça marche.
Et vous le faites super bien.
Merci.
Ben voilà. Oui, mais parce qu'il a aussi cette ouverture qui est qu'il n'a pas peur du ridicule. Beaucoup d'acteurs ont peur du ridicule, veulent toujours se montrer sous leur meilleur angle, etc.
Pense à leur image, plus qu'au rôle, vous voulez dire?
Bah, parfois ça arrive, ou en tout cas, il y a un tel empêchement à être ridicule que ça te coince un peu, quoi.
Comme une comédienne qui cache ses yeux au moment de faire une photo, par exemple, pour la promotion de cette
émission. Oui, parce qu'elle a une infection des paupières depuis 2 ans et demi. Ça ne se débarrasse pas.
Vous avez qu'à suivre ça. Ouais. Non, on a fait une photo. On a fait une photo tout à l'heure pour les réseaux. Et elle a fait l'invité mystère. Elle a caché son regard.
C'est qu'il n'y a pas de fille, c'est un selfie.
J'ai juste des petits yeux de babouin. J'ai des yeux de babouin. J'ai aucune envie qu'on me voit.
Aujourd'hui, nous parlons du petit locataire. C'est bien, on a une bouche de cheval et des yeux de babouin.
C'est bienvenue.
Comédie animalière.
France Inter. Les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Merci Gérard de Palmas sur la route.
Sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu le tout. sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Non, je n'ai pas vu tout en train s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le tout en
toi s'immiscer.
J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire. Oh.
Le best-of.
Notre invité, donc Jules, signe le scénario de La Terre Promise, HD pour les dessins, et l'humeur maintenant est celle de Guillermo Guiz, messieurs.
Bonjour les amis.
Oh, mais arrête avec ça. On n'est pas tes amis.
Ça roule sur la carapace, mon indifférence.
On retourne en Belgique, puisque.
Absolument. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout si vous le savez, mais le 1er novembre. N'était pas qu'un jour spécial pour les moins ouvertement vivants d'entre nous. Big up Jim Morrison, big up Lynn Renault. C'était également jour de fête pour les moins logés, puisque le 1er novembre coïncide avec la trêve des expulsions et le lancement des plans d'hiver pour les sans-abri. Et oui, c'est le grand retour des sans-abri dans l'actualité. Dernier marronnier humain avant le retour du Beaujolais nouveau. Ah oui, on y est déjà, ça passe tellement vite le temps, c'est quand même dingue. Et vous me direz, avec ce sens de la question qu'on vous envie dans tous les commissariats de France, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et je vous dirais, je sais pas, j'ai une petite idée, comme ça, petite idée, un resto qui aurait comme ambition, au départ, de distribuer 2 000 ou 3 000 couverts par jour, pas plus. Et vous me direz, mais ça c'est l'idée de Coluche. Et je vous dirais, sérieux? Et vous me direz, bah oui, mais ça c'est Coluche, 100%. Désolé, autant pour moi Michel. J'en profiterai pour rappeler quand même qu'on est déjà à 323 morts de SDF en 2016. C'est beaucoup, et oui, parce que oui, les SDF ne meurent pas qu'en hiver, contrairement aux célibataires. À 48 ans d'espérance de vie, c'est vrai, à 48 ans d'espérance de vie, 48 ans, vous vous rendez compte? Si on était SDF autour de cette table, il resterait Leïla et moi, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est tout. Et Jules, peut-être, éventuellement.
Ouais, quand même.
À vue de nez, je sais pas. C'est pas beaucoup.
Je fais le vexé.
Ouais, vous resterez pas, une vingtaine d'années. Quelle vache.
Super agréable.
60, c'est le nouveau 40.
Vas-y, enfin, continue, voilà. Petit con,
pour notre plus grand, pour notre plus grand bonheur et celui de la chaîne, on est moins sur du SDF que sur de l'ISF dans ce studio. Et en parlant de Nagui, je dois bien admettre qu'après mon coup de gueule en plastique de la semaine dernière, je vous le pousse vraiment ce coup-ci. Comment vous faites pour vous habituer à voir autant de misère sous les trottoirs de Paris, quand même? Vraiment. Je dis pas qu'il n'y a pas de sans-abri à Bruxelles. Je dis juste que chez nous, dans la rue, il y a quand même un peu plus de mobilier urbain. C'est vrai. Paris-Plage, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la mer. Mais Paris tout court, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à Calcutta, quoi. C'est vraiment des paysans, en fait. Moi, je suis pas vite choqué. J'ai déjà mangé chaud sur une aire d'autoroute. Mais je m'y fais pas, quoi. Il y a des sans-abri partout, tout le temps. Il y a même des gosses qui dorment dans la rue, ici, par terre. Enfin, et là encore, je viens d'un pays où quand quelqu'un recueille un enfant dans la rue, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le petit. Il fait non, j'aime pas spécialement les bonbons, père Albert. Enfin voilà, j'ai pas de solution toute faite. Mais quand même, on parle d'une civilisation qui laisse les gamins dormir dehors, quoi. À ce tarif-là, c'était pas la peine d'inventer les droits de l'homme. Il fallait vous contenter d'inventer les pépitos, quoi. C'est vrai. C'est pas un reproche, hein. Ça déchire les pépitos. Il faut un grand peuple pour inventer les pépitos. L'équilibre entre biscuits et chocolat est impeccable. Je critique pas. Mais avoir autant de monde qui vit, dort, se nourrit et meurt dans la rue, c'est pas normal, quoi. Et vous allez me dire, ouais, Johnny, tu trouves que c'est normal, Johnny? Je vous répondrai que ça va. Vous me direz, non, on disait ça comme ça. Je vous dirais, enfin, si c'est interrompre pour interrompre, autant que ce soit un minimum pertinent. Et vous me direz, en même temps, si on voulait des leçons de morale, on aurait engagé Alexandre Jardin. Je vous dirais, ouais, bon, okay, c'est vrai que c'est pas normal, Johnny. Ce qui est normal, c'est qu'il va falloir un mort. Il va falloir un mort de froid pour que les SDF deviennent un enjeu de campagne. C'est terrible, quoi. Ce qu'il leur faudrait, c'est un leader charismatique, quoi. Et, à l'année, une figure emblématique, un Spartacus des SDF, quoi. Je sais pas, un José Bové ou même une Frigide Barjot, s'il faut racler les fonds de théière. Enfin, je veux dire, un genre un sans-abri avec une histoire, un vrai destin. Pour toucher les consciences, quoi. Genre un sans-abri déradicalisé. Top pour intéresser les politiques. Avec un gros accent berrichon pour qu'on puisse l'imiter facilement. Handicapé, ce serait top. Idéalement amputé d'un bras à cause d'une mauvaise mine dans un camp d'entraînement à Kandahar. Un truc un peu. Genre qui joue merveilleusement du banjo, quand même. La perle rare! La perle rare! Sans ça, C'est mort dans les thèmes de campagne. Les SDF sont toujours coincés entre le bien-être des écrevisses et la composition de la tarte au chou rouge. Voilà, donc c'était 3 minutes de mauvaise conscience à bas prix. La semaine prochaine, on posera une question qui intéresse vraiment les gens. Qui fait quoi pour la nouvelle année ?
Merci.
Allez, bonne émission.
Guillaume Gouiz. La bande originale. La bande originale, justement, de Jules, le parrain, le beau-papa, l'héritier de Lucky Luke, allez savoir. Bon, La Terre Promise, en tout cas, c'est ce nouvel ouvrage qui sort aujourd'hui. On s'est intéressé à quelques dates, comme ça, que l'on a mises en musique. Du moins, vous nous avez dit ce que vous écoutiez, par exemple, en 1982.
Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment.
Extraordinairement d'actualité aussi, les paroles de cette chanson.
Mais oui, en fait, je pense qu'il y aurait des reprises éternelles à faire du Renaud de cette époque. J'étais super fan, j'avais le bandana, les posters dans la chambre.
C'était violent à l'époque, hein, c'était considéré comme
mais oui.
Se faire insulter quand même.
Mais bien sûr, bien sûr. Et en même temps, c'est comme pour Brassens d'ailleurs, quand on est petit et qu'on écoute ce genre de chanteur, on s'ouvre à toute une forme de vocabulaire qu'on ignorait. Il y a, je ne sais pas combien de mots que je dois entièrement à Renaud. Hein.
Et le mot croque-mort aussi, j'ai cru lire.
Croque-mort, c'est encore avant. Mais moi, j'étais dans une école un peu alternative en banlieue. Et j'ai appris le mot croque-mort dans une manif qui était Chirac, croque-mort, De Croly n'est pas mort. Ça s'appelait l'école De Croly. Mm-hmm. Et donc, j'ai demandé qu'est-ce que. J'ai appris le mot Chirac
c'est
et
génial.
Le mot croque-mort
j'ai
en même temps.
Le mot Chirac.
Chirac et le mot croque-mort.
1982, donc, c'est cette année que nous avons prise en référence. Vous avez à peine 8 ans. Et on peut dire que vous êtes patron ?
Et oui, c'est ça, parce que je me suis déjà lancé dans le dessin de presse et je suis à la tête d'un groupe de presse assez important d'un certain nombre de titres que je photocopie au boulot de mes parents et que je vends à la sortie de l'école pour un franc. Et donc j'ai commencé à
un homme d'affaires.
Oui, oui, voilà, à étendre mon emprise.
Le Julien Déchaîné, c'est ça ?
Le Julien Déchaîné, puis ensuite il y a eu Hyperhit, Neige et Soleil, il y a eu pas mal de titres. Hein. Chigom.
Et alors, vous les avez conservés ? C'est des fanzines, on va dire.
Oui, c'était des fanzines photocopiées. Ouais. D'ailleurs, vraiment, félicitations aux photocopieuses de l'époque parce que c'est reste à peu près bien conservé. Ouais. Et je rencontre régulièrement dans les dédicaces des gens dont j'ai tout oublié et qui me disent « Mais j'ai encore toute la collection agrafée dans un placard. » Donc, il en existe quelques numéros.
Bah, c'est collector aujourd'hui. Ouais. En 1998, vous écoutez... C'est fort.
Ça, tu l'as passé. Hein.
Ah, ça.
Ça, tu l'as lancé, celui-là.
J'ai bougé même dessus.
Et pas que.
Ça va, les deux, là ?
Ouais, tranquille.
Ok.
Sara perché ti amo, Ricci et Poveri, mais d'où vous écoutez ça en 98 à Normal Sup, vous ?
Non, mais en fait, c'était un peu la fin de Normal Sup, et c'était le moment où j'allais changer de vie. Non, mais c'était un peu une période charnière, avec une insouciance, une gaieté, j'avais pas vraiment de contraintes, bah, je gagnais des sous avec Normal Sup, ils payent les étudiants. Je travaillais pas encore vraiment et j'ai commencé à vendre mes premiers dessins dans la presse à ce moment-là. Je me suis dit que finalement, plutôt que faire de la recherche, ce pourquoi j'étais destiné finalement en sinologie, bah, j'allais faire du dessin, c'était marrant. Donc ça représente pas mal cette gaieté-là particulière qui était un. Voilà,
la nonchalance. Nonchalance
ouais, oui, l'insouciance
italienne.
Ça présente bien, ouais.
Ouais c'est vrai,
c'était
ça fonctionne.
Plus solaire. Après, bon, ça se gâte.
Et l'enseignement, c'était pas du tout votre truc. Vous racontez que c'était.
Je pense que j'étais un mauvais prof, je suis pas très patient. En revanche, j'adore raconter des histoires.
Prof d'histoire chinoise.
Prof d'histoire chinoise, voilà. J'étais spécialisé. Moi, vous parliez de Calcutta. J'ai fait une monographie sur l'histoire des Chinois à Calcutta du 18e
siècle.
C'est
vrai que ça ne fait pas rêver, l'intitulé.
Non, mais sauf que vous enseignez. Alors, quand vous enseignez, vous parlez de patience, mais vous n'étiez pas face à un public jeune. Vous n'étiez pas face à des collégiens agités parce qu'ils sont des ados.
Ils avaient quasiment mon âge. J'avais 2-3 ans de différence avec mes élèves. Et justement, j'avais l'impression de faire un perpétuel exposé devant la classe. C'était épuisant.
Alors, vous avez souffert pourquoi
Et puis, corriger les copies.
D'attention. Ah oui,
non, mais alors pour le coup, rester dans Silex and the City, je suis vraiment un enfant du mammouth. C'est-à-dire que moi, mes deux parents sont profs, j'ai un frère prof, j'ai failli être prof. Enfin, c'était vraiment, j'ai infusé là-dedans. Donc finalement, il y a une espèce de rupture radicale en passant du côté de la bande dessinée.
J'ai failli être prof, quoi, comme s'il avait failli aller tu vois, en
c'est
prison,
ça.
Dans la reproduction, je dirais sociale.
Non, mais tu entends le côté fils de prof.
J'ai rompu la spirale bourdieusienne, vous voyez.
Ouais. Non, mais vous vouliez faire de l'argent, quoi.
Non, mais aussi, regardez, je suis venu en hélicoptère, je me suis posé en haut de la maison de la radio tout à l'heure. Je pense que vous aviez tous des têtes.
On vous attendait.
En 2005.
Ça fait pousser celui de Nagui, mais bon.
Il y a un accrochage hélico. En 2005, vous publiez votre premier album et vous écoutez.
Sur la bio, là.
Non, mais les deux vont bien.
L'un n'empêche pas l'autre.
Exactement.
C'est une transition.
Tu offres un apéro sur Richie et Poveri et tu conclus sur Bill Withers.
Just... Alors on t'a planté, t'écoutes ça tout seul.
Tu pleures ta race.
Ouais, j'aurais aimé. Mais
Premier album avec un titre volontairement choc, Il faut tuer José Bové. Vous n'avez pas avec le dos de la cuillère, comme dirait l'autre.
En fait, pareil, c'est très souvent, mes thèmes et mes titres font un peu peur à l'éditeur, et puis après, ils voient les ventes, ils sont contents. Mais le truc, c'est qu'il y avait un plan B qui était « Qui veut tuer José Bové ?» C'est au cas où Bové le prendrait mal, qu'il faille changer au dernier moment le truc. Et c'était, mais c'est vrai que c'était drôle. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de bande dessinée qui reliait voilà, un récit et l'humour à l'actualité. Il y avait Pétillon avec l'enquête corse, qui était pour moi l'alpha et l'oméga de cet humour-là. Mais sinon, c'était très, très rare. Et du coup, faire toute une parodie auteur du milieu de l'altermondialisme qui était vachement en vogue à l'époque, voilà, ça a fait mouche. Et ensuite, ça a donné lieu à plein d'autres choses sur les biographies de Sarkozy, de Hollande, de Royal, de et machin,
le
BD. Le défaut mais à l'époque, c'était nouveau.
Le défaut de coller à l'actualité, c'est que dès l'instant où c'est plus dans l'actualité, la BD, elle, devient un peu caduque.
Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis petit à petit éloigné de quelque chose qui était trop en lien avec l'actualité chaude et pour parler de société et de grands thèmes, jusqu'à vraiment faire des choses en costume. On parlait de Silex, la série sur la philosophie, c'était un petit peu ça. Ça parlait quand même beaucoup d'aujourd'hui. Et Lucky Luke, en fin de compte, c'est un avatar de tout ça, de nouveau.
Pour parler de musique et de votre travail, à quel point elle est présente, la musique dans votre boulot? Est-ce que c'est une musique d'ambiance? Vous écoutez la radio? Est-ce que vous avez des écouteurs? Est-ce que vous mettez dans une ambiance musicale en fonction? Vous avez écouté de la country music pour bosser sur Lucky Luke ou
Mais en fait, carrément. Et
Gershwin.
À vrai dire...
Oui, c'est ça.
En fait, y a
plusieurs
Macias,
étapes. Enfin, je sais pas.
Ouais, il y a plusieurs étapes. Il y a du boulot, il faut pas de musique. C'est le boulot où on réfléchit aux idées. Pour moi, j'ai vraiment besoin d'être dans le silence. Je travaille dans mon lit. Je peux rester des journées entières dans mon lit comme ça et je cherche des idées, je fais des micro-siestes et puis je prends des notes sur un petit cahier. Une fois que j'ai toutes les idées et qu'il faut dessiner, et spécialement le crayonné ou l'ancrage, là évidemment on s'environne de musique. Mais c'est pas moi qui ai dessiné le Lucky Luke, mais j'ai quand même fait énormément de croquis que je n'ai pas montré au dessinateur parce que j'en avais besoin
comme
pour construire cette grammaire-là, pour faire le découpage.
Un storyboard quoi.
J'ai fait un storyboard caché comme ça. Il y a une édition de luxe qui va sortir.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il y a une édition noir et blanc comme ça avec des belles reproductions qui va sortir en janvier de ce même album où il y aura certains de mes dessins en parallèle des dessins de HD. Moi j'avais pas son agilité et son brio je dirais graphique qui lui permet vraiment d'être dans les pas, c'est sidérant. Il y a certaines cases où on ne sait pas si on est dans le Maurice de l'âge d'or ou si on est aujourd'hui. C'est vraiment chouette, je trouve. Je mets un peu de musique. Mais donc, j'ai mis effectivement de la country pour me motiver de temps en temps. Et puis, de temps en temps, j'allais chercher des musiques ambiance Mazel Tov pour dire voilà, faut pas oublier, c'est quand même, on est chez Rabbi Jacob. Hein, donc.
Et votre patte, Lucky Luke, parce que c'est difficile de s'emparer d'un personnage qui existe depuis si longtemps. Qu'est-ce que. Merci Nagui, beaucoup. Et qu'est-ce qu'on.
Avec mon nom dedans, je kiffe.
Je suis très contente. Et on ne peut pas changer le caractère de Lucky Luke, on ne peut pas trop le faire évoluer, mais qu'est-ce que vous ajoutez, vous? Où est-ce que ça se situe?
Il a un iPhone.
Si on s'en tient juste au personnage de Lucky Luke, qui a une grande fidélité à la tradition. Ouais. D'ailleurs, quand on signe des contrats, on s'engage, quand on est auteur de Lucky Luke, à ne pas faire du mal à l'image de la série. Mais c'est très très vague. Donc évidemment, j'allais pas faire des albums où Lucky Luke était pédophile nazi. Ça tombait sous le sens, c'était pas spécifié. Enfin, j'avais pas.
Ça pourrait se vendre.
Il fallait pas non plus le faire fumer. Parce que là, la cigarette a disparu contractuellement. C'était impossible.
Son caractère devait rester assez semblable.
Mais en revanche, non, son caractère, on avait pas mal de latitude. Il pouvait. Et de fait, il est beaucoup plus incarné et vivant, peut-être que. Il y a des gens qui ont oublié un peu Lucky Luke pendant des années, qui l'aimaient bien. Si on interrogeait les gens, ils disaient « Oui, je suis lecteur de Lucky Luke », mais on leur demandait « Depuis quand vous n'avez pas lu de Lucky Luke ?» Oh là là, ça remontait. Donc là, il s'agit vraiment de faire revenir les gens avec un Lucky Luke humanisé d'une certaine façon, pas seulement une espèce de face de marbre qui traverse des situations incongrues, mais quelqu'un qui se met en colère. Au bout d'un moment, avec toutes ces histoires de cache-route dans le désert, il s'énerve. Qui est ému, parce que quand le petit Yankel joue Yiddish Mamé au milieu du désert, alors qu'ils ont tout perdu, tout le monde pleure, les ours, les coyotes, les chacals qui viennent autour pleurent abondamment, même Jolly Jumper qui a peur de se faire photographier en pleurant comme un poulain. Et ce Lucky Luke là, bon, c'est un Lucky Luke d'action, et à vrai dire, pour moi, c'est un personnage un peu bicéphale, Lucky Luke. On dit le cow-boy solitaire. Bon, déjà, il est bien entouré, spécialement dans cette aventure, c'est peut-être un peu pesant parfois pour lui, mais de façon générale, c'est quand même Pourquoi est-ce qu'il est mythique? C'est parce qu'il a une dimension mythologique. Lucky Luke, pour moi, c'est un centaure.
Oui.
C'est le cow-boy et son cheval. Et en fait, Jolly Jumper, c'est un petit peu comme le surmoi de Lucky Luke. C'est lui qui fait les lapsus, les mots d'esprit. C'est lui qui râle. C'est lui qui est flemmard. Et finalement, Lucky Luke, c'est la dimension universelle de la France. Et je pense que Jolly Jumper, c'est la version, c'est la dimension française de Lucky Luke.
Il y a un truc qui m'a choqué. Jules, il y a un truc qui m'a choqué dans, dans votre Lucky Luke. C'est que les paroles de la chanson de la fin ne sont pas les celles que j'ai en tête. Vous vous dites I'm a poor lonesome cowboy far away from home. Et pour moi c'était a long long way, long long way from home.
Alors il y a selon les albums, il y a les deux versions qui existent traditionnellement. Et donc
OK cowboy, tu t'en sors pour cette fois, mais c'est la dernière.
Mais
fois.
Vous noterez que la version de Frankie Vincent c'est long long way from home.
Et dans cette dernière case, il y a la version
Lucky, c'est bon.
Il y a Jolly Jumper qui ajoute quand même quelque chose suite à cette à leur rencontre et puis I'm a poor lonesome cowboy, et l'autre continue zai 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 zai.
Ouais, ça, non mais je voulais pas tuer la vanne, mais oui, bien sûr.
Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a des petits détails graphiques. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans cette dernière case? Il repart vers le désert, il fuit la bar mitzvah du gamin comme ça qui a lieu dans le Far West. Bon bah ouais, il est, c'est pas quelqu'un qui aime les foules, il aime être tranquille comme ça dans le désert.
C'est le soleil couchant avec le nuage qui...
Non, alors le soleil couchant est statutaire, il bouge pas.
Ah, c'est le cactus à
le cactus à sept branches en fait. Parce que les colons juifs se sont installés dans le désert du Dakota et les cactus poussent à sept branches.
C'est beau.
Mais c'est vrai ce que disait le père Albert, c'est une jument, Lucky Luke.
Ah oui,
non,
moi
Lucky
je...
Luke, Jolly Jumper.
C'est une jument Lucky
Luke.
Mais
tu as tout compris.
Oh yeah. C'est l'outing de Daniel Morin, messieurs.
Désolé.
Lucky Luke est un étalon, monsieur.
Et Milou, c'est...
C'est-à-dire que moi, c'est vrai, je ne voyais pas le côté femelle
mais
de Jolly Jumper.
Ouais. Je ne voyais pas sexué.
Non, mais il y a un ou deux albums où il fait allusion à ça, mais il y a d'autres albums où il est amoureux de juments, donc on ne sait pas exactement.
Ouais, c'est très ambigu.
C'est flottant.
Comme
Milou. Bah non,
Milou,
c'est pas... Alors,
personne n'est allé regarder
un
sous le...
Un papa, une jument.
Alors, on va parler des clichés, justement, avec Alexandre Amiel, qui est brillant journaliste et directeur d'une société de production. Il vient d'initier. Vous avez été grand reporter chez ACAPA, Canal+, également, avant de créer Caméra Subjective, donc votre société. Vous avez initié trois documentaires que j'ai eu la chance de voir comme tout bon téléspectateur de Planète+. Il y a le doc d'Amel Chabi. Dans l'ordre, c'est Amel Chabi qui est passé la première. Ensuite, ça a été
Amel
Lucien Chabi. Ou vous?
Non, Amel Chabi, puis Lucien, puis on a terminé puis par les Juifs.
Voilà, c'est ça. Lucien Jean-Baptiste, et le pitch étant très simple, chaque fois, un enfant va voir papa, maman en disant « Mais pourquoi nous détestent-ils, nous les Arabes, nous les Noirs, nous les Juifs ?» Et tout ça part d'une histoire vraie, d'une triste anecdote, entre guillemets. C'est votre fils qui vient vous voir au lendemain des attentats et qui vous pose cette question.
Oui, ça s'est vraiment passé comme ça, malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais, juste après les attentats de janvier, donc Charlie est l'hypercachère, mon fils vient me voir, il me dit « Papa, je peux te parler d'un truc ?» Je lui dis « Bah oui, pourquoi est-ce qu'ils nous détestent ?» Alors je regarde, je lui dis « Bah personne ne nous déteste. » Il me dit « Bah si, nous les Juifs. » Je lui dis « Bah les gens détestent pas spécialement les Juifs. » Il me dit « Bah enfin papa, tu regardes pas la télé Koulibaly, Mera, viens, on va vivre à Londres. » Donc une sorte de terre promise déjà. Alors moi je lui dis « Mais on va pas partir à Londres, on est français, c'est chez nous ici, on va pas se barrer à cause de quelques sales types. »
Il avait quel âge votre
11 ans.
À ce moment-là.
Il avait 11 ans.
11 ans. Parce que pardon, ça a été le réflexe de beaucoup de juifs aussi de se dire « Ça commence, l'antisémitisme, et malheureusement en plus c'est acté, c'est avéré, monte de plus en plus, il faut qu'on se barre parce que ça se passe mal
parce
en
Ce que je
France.
Raconte aussi dans le film, c'est que ça n'a pas attendu cet épisode de Charlie, c'est une montée un peu lente depuis la...
Non, mais sauf que là, ça se concrétise par en 2016, on tue des juifs en France.
Vous passez les images d'une manif qui a eu lieu en France, où il y avait des slogans, c'était après Carpentras, non?
Il y a eu en France, non, enfin, alors les slogans, vous parlez de jour de colère ou de...
Ouais, à ces jours de colère.
Alors, jour de colère, c'est pas vieux, hein, c'est une manifestation qui a moins de 2 ans.
C'est ça.
Qui se passe en France, dans les rues de Paris. Et où, en plein Paris, des gens qui... Bon, c'était après l'histoire des bonnets rouges, donc il y avait un mélange hétéroclite de gens d'extrême-gauche, d'extrême-droite, quelques jeunes perdus de banlieue, dont le seul lien était de créer, en plein Paris, juifs...
Dehors.
Juifs dehors, quoi.
Et quand on voit les images, quand on voit les personnes qui ne se cachent pas, en plus, c'est-à-dire qu'il y a...
Pourquoi je me cacherais,
devant les caméras, devant les micros, j'assume totalement ce qui se passe, ça fait froid dans le dos. Alors, votre doc, et votre série de docs, et l'intelligence de ces documentaires, c'est que vous êtes vraiment tous les trois, et chacun, puisque chacun, vous avez entre guillemets votre doc, même si vous êtes directeur de cette collection, vous, vous essayez de comprendre, mais vraiment, en allant voir les antisémites, les racistes, il y a le patron de Radio...
Il y a Rivarol, il y a Radio... formidable, et le patron de Radio Cortosi, qui est candidat à la présidence.
De Lesquin.
Ouais.
De
Lesquin.
Ah, il est formidable.
En fait, bon, il se trouve que moi, je suis français... et juif, mais on est tous français, quoi. J'ai voulu faire une série extra-communautaire. J'ai pas voulu faire un film sur l'antisémitisme. J'ai voulu faire une série où... le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans la concurrence victimaire. L'antisémitisme, le racisme, il a toujours existé dans notre pays et ailleurs. Donc ce qui est nouveau, c'est pas ça. Ce qui est nouveau, c'est la libération de la parole. La parole, elle s'est complètement libérée. Mmh. Ce qui est nouveau, c'est le repli communautaire. Et ce qui est nouveau, c'est que on s'enferme tous les uns les autres. Toi t'es arabe, toi t'es juif, toi t'es Amish, voilà, ou supporter du PSG, enfin un truc bizarre comme
oula,
ça. Oula,
attention.
Oui, non, je pas de problème avec la police. Mais je veux dire, nous, moi j'ai 42 ans, je crois comme.
Mais t'en fais 80.
Ouais, je sais. Bah, quelques années d'antisémitisme. et quand moi j'étais ado, ça n'avait pas le même
absolument
poids.
Absolument.
Et ce que je.
Et c'est tout ce qu'il dit aussi dans les documentaires. Exactement. C'est dans les docs, c'est que il y a un retour sur l'endroit où chacun a grandi, où c'était des immeubles où tous les enfants jouaient en bas sans se poser la question de t'es qui.
C'est pas pour dire c'était mieux avant, c'est simplement pour dire voilà, ça a quelque chose à changer. Donc le titre de la série et de chacun documentaire, c'est pourquoi nous déteste-t-il, mais l'objectif c'est pas de répondre à la question, parce que pourquoi est-ce qu'il nous déteste. Si on commence à intellectualiser la chose, ça ne marche pas. Le problème de tous les films, je trouve, qui ont été faits, je dis pas que nous on y arrive un peu mieux, mais c'est que le problème, c'est que des films sur le racisme font l'effet souvent inverse de celui escompté. C'est-à-dire que quand on est devant sa télé, si on est,
je suis d'accord,
on est victime entre guillemets, on se met sous la couette, on se cache, on dit qu'est-ce qu'on va devenir, et les autres se disent qu'est-ce qui nous emmerde encore, tous ces juifs, ces noirs, ces arabes. Or, finalement, ce qu'on a voulu faire dans cette série, c'est un truc universel, c'est de raconter, en se racontant les uns les autres, bah, peut-être, c'est aussi une des séquences, par exemple, moi j'ai dans le film avec Kader Aoun que je retrouve. Ici, les gens se connaissent et se fréquentent, bah, ils ont quand même un peu plus de chances de se comprendre. Or, aujourd'hui, plus ça va, alors qu'on est dans une société, je parle sous le contrôle de différents professeurs autour de cette table, mais où entre guillemets, le ciment n'était pas communautaire. Le communautarisme, ce n'est pas quelque chose qui existait chez nous. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de me résigner à ça, quoi.
Dans chacun des docs, vous allez vers la rencontre du pire ennemi ou de celui qui, en tout cas, catalyse la parole violente. Ce qui est assez amusant, c'est de voir, par exemple, Lucien Jean-Baptiste qui débarque chez
Monsieur Henri de Lesquin.
C'est ça.
On a mangé chez lui hier, Nagui.
Qui ne savait pas. Que Lucien Jean-Baptiste était noir, donc il ouvre la porte et on voit, il y a la caméra qui le filme, et on voit la tête du mec qui se défait avec « bonjour » et qui est extrêmement tendu avant de commencer à le traiter de congoïde.
Non, il le traite
pas. Non, enfin pas traité, pardon.
C'est même plus rigolo que ça, parce qu'effectivement, dans chacun des films, on est allé voir des gens qui nous détestent ouvertement. Les réseaux sociaux, ça sert à ça, quoi. Ça sert à savoir qui...
Amel Chabi est allé à la manifestation du 1er mai autour de la statue de Jeanne d'Arc.
Statue de Jardin, aller voir les identitaires.
Et vous êtes allé voir le patron de Rivarol.
Moi, je vais aller voir le patron de Rivarol.
Alors justement, un petit extrait juste. Oh, c'est toujours délicat de sortir comme ça une phrase.
Ah, mais il a une belle voix.
Il faut le voir aussi.
Oui, c'est vrai. Un physique assez avenant.
Oui, très bien. Et vous lui demandez la discussion et de savoir si oui ou non il a des amis juifs, si oui ou non il pourrait se retrouver à table avec eux.
Autrefois, je veux dire, on ne recevait pas un juif à sa table quand on était catholique. On allait éventuellement à son magasin s'il avait des étoffes, etc. Mais jamais un médecin juif, jamais un juif à sa table. La France catholique, c'était ça, quoi. Et je ne sache pas pour autant que, il y avait une persécution particulière des juifs. Mais c'était ça, quoi. Je veux dire, chacun chez soi, ça ne me choque pas.
Ouais, voilà, lui, ça ne choque pas.
Non, mais j'aime bien tout de suite la référence. Si, pour des étoffes. Le juif, le tissu.
Alors, c'est ce que j'allais dire, oui. Il y a eu une période dans laquelle on a grandi, où on s'est dit, c'est fini, maintenant, cette histoire. On ne se posait plus la question quand on était en entre potes, en bas de l'immeuble, en train de jouer au foot.
Mais moi, je me pose cette question. Je me demande si on
n'est
pas.
T'as jamais vécu ça, pas te poser la question de savoir quelle était la religion du.
Mais moi, je me
suis
toujours fait traiter de sale arabe à l'école depuis que je suis toute petite, donc c'est pas un truc nouveau. Mais peut-être qu'on a un regard. J'ai l'impression quand on devient des adultes, on a un regard un petit peu nostalgique
mais
de notre enfance.
Non, franchement, je me suis peut-être mal exprimé.
Oui.
Mais je dis.
Je dis pas
que avant, on se faisait pas traiter de sale juif ou de sale arabe. Ce qui est nouveau pour moi, c'est pas ça. Mon fils, quand il vient me voir, il vient pas me voir parce qu'il s'est fait traiter de sale juif à l'école. J'ai envie de dire comme tout le monde, ou de sale arabe. Il vient me voir avec une idée déjà, d'une surface projective, quoi. Quand il voit Koulibaly, Mera, ça devient des choses incarnées avec des figures imposées de la haine du juif. Donc avec des gens.
Oh, pardon, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu une manif dans la rue. Avec les juifs dehors, cassez-vous.
La parole est décomplexée.
Et libérée.
C'est pas une question ça veut pas dire que les gens ne le pensaient pas déjà avant. C'est ça qui est terrible. C'est que tout d'un coup,
tu vois que c'est complètement décomplexé, décontracté, c'est d'entendre des témoignages comme le patron de Rivarol.
Oui.
Ce qui est intéressant dans la série, c'est que, effectivement, ces extraits, enfin, vous avez passé cet extrait de Rivarol, l'extrait de Lucien Jobaptiste avec le patron de Radio Courtoisie, l'extrait d'Amel. Ça a été vu sur les réseaux sociaux en un mois entre 15 et 20 millions de fois.
Waouh.
Je ne sais pas si vous imaginez.
C'est énorme.
C'est vraiment beaucoup.
Énorme. Ouais.
Mais ce qui m'a étonné, c'est que pour moi, qui m'intéresse un peu, qui me suis intéressé du coup à ces questions-là, la parole raciste, elle est tellement libérée sur Internet. Je ne pensais pas que ça pourrait. À un moment, vous savez, les gens qui s'occupent de modérer les sites Internet. Et en fait, aujourd'hui, les gens ne se cachent pas. Donc, alors que c'est aujourd'hui pénalement répréhensible.
Absolument.
Et il m'explique, si on devait poursuivre pénalement tous les gens qui aujourd'hui le font à visage découvert, entre guillemets, on encombrerait les tribunaux jusqu'à...
Il y a même une espèce dans le doc, il y a même une espèce de tableau où on voit quelles sont les plus visées par toutes les agressions antisémites. Pour refaire le lien avec Lucky Luke et la Terre Promise, on peut encore faire des blagues sur les Juifs dans une bande dessinée, dans un film, dans...
J'espère bien que oui. Franchement, ça me ferait suer, pour pas dire autre chose, quoi, qu'on ne puisse pas. Non, je veux dire... Son aspiration, ça a été Rabbi Jacob, la mienne aussi. Parce que, d'une certaine façon, il y a une phrase dans Rabbi Jacob qui est magique. Donc, quand Victor Piver, déguisé en Rabbi Jacob, est dans une office déguisé, il est obligé de jouer le jeu. Et puis, à un moment, ils disent Amen. Il se retourne et il dit, vous avez vu? Ils disent Amen. C'est comme nous. En fait, moi, dans mon film, je suis retourné au Maroc sur mon père. Il est marocain. Voilà. Il est pas. C'est pas mon grand-père. C'est pas mon arrière-grand-père. Je suis allé au Maroc et puis je rencontre à un moment un prof d'histoire comparé et je lui dis vous vous rendez compte du paradoxe, c'est que moi j'ai grandi avec ce mythe que le roi du Maroc avait protégé ma famille et avait protégé ses sujets juifs. Parce qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'État français venait chercher des Juifs, il a dit « les Juifs sont ma jambe gauche, les musulmans sont ma jambe droite ». Donc c'était des sujets marocains comme les autres. Et je lui dis « vous vous rendez compte du paradoxe aujourd'hui, je viens vous voir. En France, si je suis là, c'est parce que quelqu'un qui se réclamait de l'islam avait décidé de protéger ses sujets juifs. Et aujourd'hui en France, je me retrouve avec le paradoxe d'avoir l'État français... qui me protège, moi, de gens qui se réclament de l'islam.
Oui, on va pas généraliser.
En tout cas, qui justifient leurs actes, qui vont chercher là-dedans cette justification, évidemment. Donc, quand aujourd'hui, certains mômes de banlieue crient mort aux juifs, est-ce qu'ils savent que moi, mon père parle arabe, mais ma grand-mère, et qu'on a toujours vécu au Maroc et qu'on était marocains? Eh ben non, souvent non. Et c'est aujourd'hui l'idée du juif. Et c'est là où quand j'ai eu le plaisir de lire pour l'émission Lucky Luke, La Terre Promise, c'est toujours des histoires universelles. C'est pas des histoires de juifs, c'est pas des histoires d'arabes, c'est pas des histoires de noirs, quoi.
C'est surtout l'ignorance de l'autre aussi. On connaît pas l'autre, on sait pas qui il est, donc on a peur de l'autre, c'est le principal souci.
Et on a peur de l'idée de l'autre.
Merci Alexandre d'être venu à cette table. On peut pas dire que l'intelligence soit au rendez-vous. La preuve, Daniel Morin, on voit bien que les clichés et la méconnaissance sont souvent la base du racisme. Donc il reste la seule solution, la pédagogie, l'enseignement.
Hi-ha, comme on dit chez les cowboys. Monsieur Guy, vous êtes vous êtes le Smith et Wesson de la réflexion, hein. La Santiago de l'analyse, le Stetson du raisonnement. Néanmoins, Ne comptez pas sur moi pour vous offrir un verre de whisky Moonshine au Saloon pour la simple et bonne raison que votre questionnement me rappelle le pénis de Guillermo Guise, petit et sans ambition. Prends-toi ça, Guillermo.
Toujours plein.
Non, face au racisme, j'ai trouvé une solution simple et bien moins fatigante que la pédagogie. Tout simplement, être d'accord.
C'est
avec
gratuit.
Eux. J'en parlais avec Jackie, un ami nazi décorateur que j'ai rencontré chez vous, monsieur Guy, et que j'ai pris plaisir à revoir il y a 3 jours au cimetière de Port-Joinville, quand, comme moi, pour la Toussaint, il venait fleurir la tombe du maréchal Pétain. Jackie me disait tout simplement « Bon, je m'en touche des bâtards, faut mettre des barrières !» Eh ben, je peux vous dire, c'est pas faux. Pourquoi lutter contre le racisme alors qu'on sait pertinemment que le vivre ensemble, c'est de la flûte? Non, je suis pour une société qui sépare, qui divise, qui segmente. Ça doit aller au-delà de la simple couleur de peau. Moi, perso, je n'adresse plus la parole aux gens qui viennent dans un périmètre supérieur à 100 mètres au-delà du périphérique parisien. Voilà. Ce matin, dans le métro, j'ai croisé un gars qui portait un blouson « Vive Clermont-Ferrand ». Eh bien, ni une ni deux, je l'ai tensé. « Mais rentre chez toi, indigène, qu'est-ce que tu viens manger le pain des parisiens, espèce de fumier, est-ce que je vais chez toi bouffer ton Saint-Nectaire ?» Eh bien, il a compris, la queue basse, il est rentré direct vers son pays de misère, c'est-à-dire chez lui, en Auvergne. Et puis, faut se méfier, il y en a qui rusent. La semaine dernière, je me balade dans mon arrondissement avec quelques amis qui, comme moi, aiment bien patrouiller, fusil à la main, pour éventuellement tuer l'ennemi. Eh bien, je faisais une pause sandwich tout en lisant Valeurs Actuelles. Quand, qu'est-ce que je vois passer devant moi? Un Asiatique. Ni une ni deux, je me lève et je lui dis « Bonjour, bienvenue chez nous, allez, encore 2 ou 3 photos et vous rentrez chez vous, hein. Mes amis Tiamao !» Le gars me regarde et me balance « Mais je suis chez moi, je suis né dans l'arrondissement. » Aucun accent. Le piratage parfait. J'étais à 2 doigts lui mettre une correction quand je me suis souvenu in extremis de ce que Jackie, mon ami nazi, m'avait dit un jour à propos des Asiatiques. Il m'avait dit « Faut gaffe, faut tous du kung-fu, il va tuer un corps gare !» Du coup, plus par prudence que par lâcheté, je lui ai mis un coup de fusil. Heureusement, hein, je ne suis pas né de la dernière pluie et je sais parfaitement reconnaître un envahisseur. Un envahisseur, c'est le gars qui ne te ressemble pas, ou pire, qui n'est pas d'accord avec toi. Voilà, monsieur Guy, alors je suis désolé, mais une fois encore, vous avez dit
N'importe quoi.
Merci, Daniel Morin.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Awali en live avec Here dans la bande originale.
De la bande originale jusqu'à midi et demi avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Pierre-Emmanuel Barré, nos invités Omar Sy et Antoine Bertrand et en live Nouvelle Vague. C'est le meilleur de la bande originale et c'est jusqu'à midi et demi. On parle de ce film, donc demain tout commence. Ce film sortira avec Clémence Poésy, Ashley Walters, Gloria Colston, qui est une petite fille qui parle extrêmement bien français et anglais. D'ailleurs, la proportion et nos invités Omar Sy et Antoine Bertrand parlent également extrêmement bien anglais, même si vous, dans le film, Omar, vous forcez à mal parler anglais.
C'est la composition, ça qui était intéressant.
C'est bien joué.
C'est un peu le challenge de ce film, de jouer.
C'est l'effet comique.
Voilà,
c'est l'effet comique.
Jouer, le mec qui parle
désapprendre.
Pas apprendre tout ce que j'ai appris assez soudainement.
C'est l'amour du jeu.
Voilà, l'amour du jeu, exactement.
Mais ce qui est fort, c'est que on revendique tous et on est fiers de votre réussite au-delà de nos frontières, y compris dans ce monde impitoyable qui est celui d'Hollywood. Et on vous voit dans un film en train de dire yes, yes, good morning, I am happy, I want a colas, et ainsi de suite. Voilà, la scène dans le salon de thé est fait juste formidable. Colas.
Colas.
Colas, plutôt que dire un cola.
Ou un iced tea.
Colas, ouais.
Parce qu'on boit que du thé.
C'est ça. On va laisser quelques vannes pour ceux qui vont aller voir le film.
Il y en reste trois.
Il y en reste trois.
Ça fait, ça fait 4 euros la vanne, quand même, sont mieux d'être bonnes.
Non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vannes. Mais la proportion d'ailleurs de français et d'anglais permet à ce film, et je l'ai appris lundi soir, de sortir déjà ou d'être distribué dans énormément de pays.
Oui. Lui, et c'est
non,
on est
non,
très
pas huit, non beaucoup plus.
Lui, non. Non, c'est vrai, il a été très bien vendu à l'étranger. Et oui, peut-être aussi que cette proportion d'anglais aide. Le fait aussi peut-être que ça soit que ça se passe essentiellement à Londres aussi, je sais pas, mais en tout cas, il a traversé les frontières et ça fait plaisir
peut-être,
parce que du coup, on va voyager
avec.
Peut-être
Omar aussi là, tu sais, tu te nommes pas, mais je pense que.
Que Omar Sy est pour beaucoup. Bah ouais. Le casting, attention, Clémence
Poésie
aussi.
Poésie. Et l'anglais, bah franchement, l'anglais,
vous,
c'est aussi.
Et vous, Antoine.
Ah, bah ouais, bah ouais.
Tout est basé, tout est basé sur
lui. Lucir, l'homme le plus fort du monde.
Les gens l'ont découvert dans le Titanic. Et
je crois que. C'est pas vous qui l'avez coulé quand même.
Cool,
il joue le bateau, il joue le bateau.
Touché.
Et d'ailleurs, le film à l'étranger s'appellera Tomorrow Antoine. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est super important.
Tomorrow, le grow.
Non. Jamais je me serais permis. Demain tout commence, c'est par cette phrase que finit le film. C'est aussi l'un des enseignements.
Oui, c'est ça. C'est cette note d'espoir, en fait, pour dire que demain, tout est possible. Demain, ça peut être mieux. En tout cas, il faut
et
avoir
pas
ce point demain. Et pourquoi pas tout de suite? Non, pourquoi pas tout de suite? Parce que souvent, tout de suite, on n'y est pas. On se dit, bon, là, ça va pas. Mais au moins, demain, ça permet aussi de se projeter, d'avoir un projet. Ça fait avancer.
D'accord.
Voilà.
Ouais,
moi, c'est la phrase que la grand-mère de Hugo disait, Daniel Delorme, qui a eu une vie fantastique et puis qui
la grand-mère de Hugo Gélin. Parce que Hugo Gélin. En France, on dit la grand-mère d'Hugo, on pense à Victor Hugo.
Ah ouais, donc
Hugo Gélin,
malgré tout ce qu'elle avait fait, qu'elle avait vécu, elle était toujours, bon, demain, tout commence, qu'est-ce qu'on fait, les jeunes, qui on va voir, c'est qui les nouveaux artistes, puis tout ça. Donc, c'est
comme quoi la jeunesse est dans la tête, elle n'est pas sur le papier ou sur la...
Ouais, puis c'est la nostalgie du passé, c'est bien, mais en fait, c'est en avant que ça se passe.
C'est ça, le projet.
L'histoire d'un monsieur qui voit la vie du bon côté, avec ses petits mensonges, ses petits arrangements, en tout cas.
Des arrangements,
et des aventures.
C'est un cascadeur, donc il est dans l'illusion aussi. Il y a une métaphore aussi qui est filée dans ce film. Là, c'est pas par hasard que vous exercez ce métier-là, c'est rendre aussi les choses plus fantastiques, plus extraordinaires.
Et d'être immortel.
Et il y a un fil comme ça qui est... Non, vous êtes d'accord,
Omar?
C'est bien,
Omar, vu, c'est bien vu, ça fait plaisir.
Ça, fallait pas en parler, mais voilà.
Mais non, non, c'est bien vu, mais...
Il dit c'est bien vu, ça fait plaisir, il s'en était pas du tout rendu compte.
On discute des éléments de langage après pour le film, si tu veux, Omar.
Et donc Clémence Poésie revient avec un bébé. C'est la petite Gloria. Et cette petite Gloria va se retrouver dans les bras de son papa. Et son papa va la faire grandir pendant 8 ans. Jusqu'au jour où on peut le dire quand même, parce que c'est aussi dans la bande-annonce, jusqu'au jour où la maman revient dans la vie et où là les cartes sont redistribuées. C'est au milieu du film. Donc je ne divulgue gâche à rien.
Et c'est pas le plus gros en plus, donc tout va bien.
Ouais, c'est ça. Il y a encore des twists jusqu'à la fin du film. Il y a un twist extrêmement fort, mais qui fait que la vie est extrêmement importante, la vie est extrêmement fragile, et il ne faut
on va y aller une autre.
Et ne pas reporter au lendemain, ne serait-ce que la moindre déclaration d'amour, ou la moindre seconde, par exemple ne pas partir un matin fâché. Il faut toujours faire la bise.
Toujours faire le câlin avant de partir. Très important.
Ma règle, c'est ma règle de vie.
C'est règle d'or.
L'amour est important, et pourtant.
La maison de la radio, tu veux.
De la maison tout court, de toutes les maisons. On ne quitte pas un ami, quelqu'un qu'on aime, fâché. On fait le câlin du pardon, on fait l'amour.
On part
avec l'amour.
On
peut faire l'amour si on veut.
À un ami.
Si on a le temps.
Si c'est un bon ami.
C'est un très bon ami.
Même un mauvais ami.
Même un mauvais ami. Oui. Allons-y.
Demain, tout commence. Antoine Bertrand et Omar Sy sont nos invités. Voici Monsieur Daniel Morin.
Oui, Daniel.
Arrête,
je suis fragile.
Deuxième partie du spectacle.
Aujourd'hui, attention, mercredi, sortie ciné. Parmi ces sorties, il y a Vanaya, le nouveau Disney, l'histoire d'une petite navigatrice qui part de chez elle pour aller à la découverte d'une île mystérieuse et fabuleuse. Alors, c'est la soupe de Noël version Disney, ça sent bon le sentiment, le partage des valeurs qui me dégoûtent. Il y a Sully, le film de Clint Eastwood avec Tom Hanks. L'histoire, un pilote évite la catastrophe en réussissant à poser son avion sur l'Hudson River au large de Manhattan. Moi, les films qui finissent bien, ça m'emmerde. Il y a Ma Rosa, l'histoire dans un quartier pauvre de Manille. C'est une gentille maman de 4 enfants appréciée de tous n'arrive pas à joindre les deux bouts. Du coup, pour s'en sortir, elle vend un peu de drogue et bien sûr, elle se fait gauler par des vilains flics corrompus. Et gna gna gna, justice sociale, misère économique, générosité du cœur, que des valeurs qui me donnent la nausée. Mais heureusement, il y a aussi une sortie qui sort du lot, une sortie qui dépasse, une sortie aussi virile que torride, un film qui parle d'amour pour faire plaisir à Omar, le documentaire signé Thierry Demézières sur la vie et l'œuvre de Rocco Siffredi. Oh,
j'ai fait des signes, Omar, j'ai fait des signes.
Évidemment, vous vous en doutez, un film France Inter, sobrement intitulé Rocco.
Oui, alors...
Rocco. Quatre lettres qui, au cours des 30 dernières années, firent frissonner de joie et de honte à la fois les aficionados de la romance brute, de la romance qui transpire à gros bouillons, de la romance qui jubile à plusieurs. Rocco Siffredi, star du porno, qui après 30 ans de carrière dit stop. Mike Tyson a raccroché les gants, Rocco va raccrocher le string. Le documentaire de Thierry Demézières est une plongée en apnée dans l'univers à mi-chemin entre jubilation et douleur au cœur de l'industrie du X. Une plongée avec comme guide un gros calibre. France Inter est fière de s'associer à cette aventure avec un des talents les plus purs de l'introspection, Salas. Sa mère voulait qu'il soit curé. C'est raté. L'élévation de son fils, qu'il partagera avec plus de 5000 partenaires dans plus de 1500 films, fut plus charnelle que spirituelle. Et si cette élévation ne monta pas au ciel, elle s'étira quand même sur 24 cm, ce qui, en période de crise, n'est pas chose négligeable. Rocco, un film sur un homme qui, pour mieux se trouver, se perdit au milieu des femmes. Rocco est-il un héros? Rocco est-il une victime? Rocco un homme victime de son sexe, le héros qui laissa et se laissa happer par la machine aussi implacable qu'impérialiste du porno? Le malheur de Rocco, c'est le bonheur des mateurs et le calvaire des partenaires qui, avec l'étalon italien, sont littéralement harponnés par un cyclone enivré de vice qui, dans une danse copulatrice fiévreuse et brutale, leur fait subir tous les outrages de la bestialité transalpine. Rocco, un homme qui inspire du désir mais aussi de la peur, j'en veux pour preuve cette phrase tirée du film, celle d'un producteur qui donne son planning à une jeune comédienne en lui disant « Le 24, tu tournes avec Rocco, le 25, on t'enterre. » Comme dirait Marilyn, « Poupou pidou !» Rocco, un film humain consacré à une bête, un film fier, un film France Inter. Wow. Eh bien voilà. Bravo. Voilà enfin un film France Inter digne de ce nom, une œuvre sociale bien sûr, mais accompagnée de soubresauts festifs. C'est aussi ça l'esprit de Noël. À demain.
France Inter, le meilleur moment de la bande originale. Avec Nagui.
Leïla, il est temps d'offrir votre brouillon de culture à Antoine Bertrand et Omar Sy pour les sortir de la promo du très bon film.
Oui,
demain
Antoine,
tout commence.
Omar, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture et on commence par un son pour apprendre à mieux vous connaître. On commence par vous, Antoine.
Se foutre à poil pour faire scandale, c'est pas toi qui a inventé ça. Moi aussi, je peux le faire.
Plus agréable à entendre qu'à voir.
C'est juste en tout cas.
J'en ai plus que toi. À la quincaillerie, je prends des peaux sexy en lichant des outils. Je peux même faire du cheval sur une boule en métal comme une danseuse de Laval.
Deux.
Voilà, c'est votre parodie sexy trash de Miley Cyrus dans un show télé qui s'appelle Bye Bye.
Ouais.
Alors visuellement, j'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur
Internet. Il est nu sur une boule.
On refait exactement le même clip, mais avec moi. Les gens me voient pas présentement, mais on a les mêmes proportions à peu près, moi et Miley. Mais avec une belle, justement, tu sais, on avait des sous pour faire ça, on avait de l'argent, donc tu sais, la production elle est parfaite, à part le protagoniste qui lui l'est moins. Donc ouais, ça c'est une revue annuelle qu'on fait à chaque année au Québec. Justement, c'est une revue de toute l'actualité. Donc, et cette année-là, il y avait évidemment Miley.
Et vous parliez tout à l'heure de Radio-Canada, de France Inter, des doux mots de Pierre-Emmanuel Barré. Au Canada, justement, dans une émission comme ça, on peut aller loin dans l'humour, on peut aller loin dans la parodie.
La ligne est mince. Ouais. Je dirais que justement chaque année c'est un combat. Chaque van un peu plus trash, doit être défendu à chaque année. Miley ça allait parce que ça avait quand même fait de l'actualité, puis on voit rien là. Ouais. Puis les gens savent pas, moi, que pour atteindre le fa aigu, je me suis fait retirer les testicules. Donc c'est du jardin intérieur, c'est de la petite cuisine. Mais il faut toujours pousser, il faut toujours se battre. Si on veut aller un peu plus loin, il faut toujours. Parce qu'on est dans le politically correct, puis je pense que c'est dans l'air du temps. Là.
Et est-ce que vous avez envie d'être plus souvent en France, de participer à des émissions avec le même engagement que vous avez au Canada, en mode humour, ou plutôt de distinguer la carrière d'acteur et de laisser de côté un peu les shows télé?
Écoutez, je pense que je suis l'année dernière, moi j'avais le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire je suis venu tourner avec Omar, j'ai passé trois mois en France, 5 semaines à Londres. J'ai tourné deux séries, un film au Québec. Moi j'ai aucune ambition ici, je veux dire je le fais totalement en détente. Oui. Les gens m'appellent, tant mieux, tu sais, si je peux revenir tourner une fois de temps en temps ici. Mais honnêtement, si j'ai que deux films à faire, puis ils sont faits, ben ça aurait été ça, puis c'est tant mieux, là, je profite de chaque moment, en fait, comme dans le film.
On poursuit avec vous, Omar.
Là-bas, ils sont Danny Glover, ici, on a Omar Sy. Je représente le Jack, c'est les frères Ohex, de Flory à Croix d'Arcy. Omar Sy, Omar Sy, Omar Sy, Omar Sy.
Ça va, arrête.
C'est le groupe Pompe Funèbre.
Ah bon?
Putain, ça fait plaisir.
Je suis avec Croc et Claire.
Pompe Funèbre, pardon, j'ai dit Pompe Funèbre.
Ah ouais, oui.
Qui chante au Marcy.
Je ne connaissais pas ce
mieux,
morceau.
Mieux.
Mais je découvre, je ne savais pas.
Ah, vous connaissiez pas?
Non, pas du tout.
Pompe Funèbre.
Pompe Funèbre, voilà.
D'accord.
Jeu de mots.
Donc, dans les paroles de cette chanson, vous êtes présenté en fait comme la réponse. Alors je vais vous expliquer la réponse française à Danny Glover. Vous êtes plus qu'une icône, vous êtes une sorte d'étendard d'une forme de revanche pour toute la jeunesse.
C'est donc beau, voilà, tous ces gens qui te connaissent pas.
Je peux laisser la magie faire son boulot.
Et on connaît votre engagement. On a parlé tout à l'heure de C'est que du bonheur. Et récemment, vous avez poussé un coup de gueule salvateur, à mon sens, dans une émission de télévision, justement.
Dans
C'est à vous, oui, pour prendre la défense de cette jeunesse face aux médias, qui, ces médias-là, leur tendent pas nécessairement le micro.
Non. Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était un beau positionnement de votre part, Omar Sy. Est-ce que c'est pas trop dur à porter aussi, d'être sans cesse renvoyé, soit là dans le cas de cette émission, on parlait de la banlieue et de Trappes que vous avez quitté il y a je ne sais combien d'années, ou d'être renvoyé toujours à cette image d'incarnation, d'icône, d'étendard. Est-ce que c'est pas un peu chiant?
Mais en fait, c'est pas du tout dur à porter parce que je ne porte pas.
Ouais.
Voilà, tout
mais
simplement.
Comment on fait pour pas le porter? Ben, je crois pas,
ça m'appartient pas, ouais. Vraiment clairement, et ça c'est clair chez moi, c'est que ça ne m'appartient pas, je suis pas ni un porte-drapeau, ni représentant de quoi que ce soit. Après, si effectivement ça peut inspirer des jeunes comme ça à faire des morceaux, ça les aide eux à dire ce qu'ils ont à dire, si ça représente quelque chose pour eux, ça leur appartient à eux, mais ça ne m'appartient pas à moi.
Vous rendez compte que vous avez un devoir de faire attention à votre comportement, aux valeurs que vous véhiculez?
Pas du tout.
Mais si.
Non.
Mais si, puisque ce que vous pouvez dire peut influencer justement.
Je refuse et je ne m'exprime pas en ayant ça en tête. Sinon, je dirais que de la merde. Ce que j'essaye de faire,
c'est un devoir d'exemplarité comme des joueurs de l'équipe de France de football.
Non, ils en ont pas. Ça aussi, c'est c'est faux, c'est une fausse piste. Les joueurs de foot, ils sont là pour marquer des buts, faut les laisser marquer des buts, et on n'a pas besoin de savoir dans quelle voiture ils roulent, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils pensent, et c'est des joueurs de foot qu'on essaye déjà.
On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de savoir, mais on sait, et on donc sait. Ça peut donner de mauvais exemples.
Non, 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 déjà, si au gouvernement, ils pouvaient donner eux l'exemple, après on ira voir les joueurs de foot.
Tu vois que c'est important.
Voilà. Donc, oui, non, 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 et l'amour dans tout ça, c'est l'amour aussi, l'amour du prochain, c'est aussi lui foutre la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut pas empiéter là où on doit pas. C'est-à-dire qu'un joueur de foot,
mais
il a
quand vous poussez un coup de gueule, par exemple, sur le climat actuel c'est, dans une émission
c'est
aussi.
C'est mes pompes. C'est moi avec ce que je suis. Qui a envie de le dire. Et je le dis pas parce que je pense représenter quoi que ce soit. Déjà, c'est un manque d'humilité de se dire, je représente si, c'est important, tout le monde attend mon avis. Non. C'est, faut rester sur terre. Je reste dans mes pompes.
Je suis totalement d'accord avec vous.
Et j'agis avec.
Je suis totalement d'accord avec vous. Mais sauf que quand vous donnez votre avis sur le climat, ouais. Le comportement, le ceci, cela, même quand vous dites l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important maintenant, tant pis si je passe pour Miss France, ringard en disant, j'aime la paix, je suis contre la guerre, j'aime l'amour. Bah, c'est quand même des valeurs qu'il faut aujourd'hui
sauf
faire
que je le fais parce que j'ai envie de le faire et je le fais pas en disant je porte tel ou tel drapeau.
D'accord.
Je représente telle ou telle chose. C'est-à-dire que cette responsabilité là, on me demande si c'est dur à porter. Je réponds que ce n'est pas dur puisque je ne la porte pas.
Et c'est
je n'agis bien. Pas en fonction. Et je pense que si j'agis en fonction.
Ça dénaturait le propos.
Mais complètement, complètement.
Allez, on finit avec un peu d'amour.
Mais c'était de l'amour, ça,
ben
déjà.
Oui,
c'est de l'amour. Pourquoi c'est l'amour pour mon pays? Parce que j'aime la France et la France va mal parce que justement, on demande à des gens qui sont pas armés pour ça d'avoir une responsabilité qui n'est pas la leur et d'avoir un rôle qui n'est pas leur. Ils sont pas formés pour ça. C'est-à-dire, déjà, si on voulait que les joueurs de foot soient un exemple, eh ben, la Fédération française de football ferait mieux son travail. Merci France Inter et bonjour.
Voilà, ça c'est fait, mais je finis quand même par un peu d'amour, un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Je commence avec vous Antoine, je vous offre Paris Trash, arrondissement par arrondissement, d'Elsa Barrère, illustré par Stéphane Trappier. C'est aux éditions Fluide Glacial, qui est une grande maison de bande dessinée que vous connaissez bien. Et bien là, si vous voulez vous promener dans Paris en évitant, on va dire, les embûches à touristes et découvrir le Paris vraiment trash, trash, c'est par ici que
merci
ça se
beaucoup.
Passe.
Tous les endroits où on se fait agresser, on se fait piquer son porte-monnaie.
Ouais. Oui, en revanche, tous les arrondissements sont touchés par les pigeons, vous le verrez aussi.
Ah, on le note,
et par les bouchons. Et par les embouteillages aussi.
Oui, ça c'est encore autre chose. Bah, et pour vous, Omar, je vous offre. Oui. Non, qu'est-ce qu'il a?
3-0 pour l'humour.
Je vous offre de l'amour, vous allez voir. Je vous offre le testament de William S. C'est le dernier tome des aventures de Blake et Mortimer. C'est aux éditions d'Argo. Et là, il est question d'une sorte de huis clos où 12 sons de cloches retentissent dans un palais vénitien. Et on découvre une pièce secrète. Et là, il y a une énigme
à
résoudre.
C'est un peu Inferno, quoi.
Ouais, elle n'avait pas trop d'idées, en fait.
Parce que je crois que vous aimez bien la bande dessinée, Omar.
Oui, c'est vrai.
Et ben voilà, c'est pour vous.
Je rappelle donc ce film demain.
Il commence à lire, Omar, comme si.
Demain, tout commence.
Oui, comme s'il savait lire.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Retour en live dans cette bande originale de Nouvelle Vague. Sur l'album, il y a... Sur cet album, Mélanie Pain chante également Maladroit. C'est une reprise qu'il nous offre et je pense que c'est toi, Élodie, qui va nous être la lead.
Non, pas du tout. On est deux.
D'accord. Toutes les deux. Ok, allez-y, c'est royal. C'est I Just Can't Get Enough. Dépêche Mode, c'est parti.
All the things you did to me and everything you said, I just can't get.
Original, c'est fini pour aujourd'hui. On revient lundi avec Sarah Forestier et Vincent Elbaz et on sera en live avec toute l'équipe. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon week-end.